François Hellebrun, bonsoir.
Bonsoir Pierre.
François Hellebrun, vous êtes professeur affilié à Sciences Po Paris. Alors après les frappes aériennes massives lancées par l'armée israélienne sur l'Iran dans la nuit du 12 au 13 juin, la réaction de la France était attendue au tournant. Alors ça avait bien commencé, tout d'abord avec le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui était le premier à dégainer, et il explique suivre avec la plus grande attention l'évolution de la situation, et il dit également que Israël a le droit de se défendre. Des éléments de langage repris quelques heures plus tard par Emmanuel Macron, la France réaffirme le droit d'Israël à se protéger et à assurer sa sécurité. Et puis voilà, hier, il y avait un conseil de défense à l'Élysée aux alentours de 17h, organisé bien évidemment sur la situation au Moyen-Orient, et le président de la République a appelé Israël à mettre urgemment fin aux frappes sans lien avec le programme nucléaire et balistique israélien. Quand vous voyez cette séquence, que vous dites-vous ?
Je me dis tout simplement, et pour faire même un peu café du commerce, plus ça change, plus c'est la même chose avec ce président de la République sur ce qui se passe au Proche-Orient. C'est-à-dire que, étonnamment, les réactions immédiates, comme après le 7 octobre, comme après le début des frappes israéliennes sur les installations nucléaires iraniennes, étaient bonnes. C'est-à-dire reconnaître que Israël était vraiment sous une menace, évidemment celle du Hamas au 7 octobre, c'est une menace, un crime monstrueux, mais après les frappes intervenues dans la nuit de vendredi à samedi dernier, la réaction du président de la République, avec, même avec une conférence de presse le soir même, où il reconnaissait en fait le droit d'Israël à la légitime défense face à un programme nucléaire qui s'était emballé et qui devait aboutir avec plusieurs bombes atomiques, au moins 9 têtes nucléaires pour l'Iran, dans les semaines qui venaient, était donc une menace réelle et présente, et qu'en plus l'Iran avait frappé à plusieurs reprises, soit directement en avril, en octobre dernier, soit indirectement via ses proxys, comme on dit, le Hezbollah, le Hamas, les Houthis, et même à partir de Syrie, quand la Syrie, le régime de Bachar al-Assad n'était pas tombé. Donc la France reconnaissait, à la fois, comme vous l'avez dit, par sa diplomatie, Jean-Noël Barrot et les communiqués du Quai d'Orsay, qui reconnaissaient le droit de la légitime défense d'Israël, et dans la bouche du président de la République le vendredi soir. Donc on était plutôt bien partis, et puis après, comme souvent, alors on ne sait pas ce qui se passe, des discussions, des influences, des réflexions, le président de la République mollit, et prend une posture pacifiste quand il ne faut pas être pacifiste, fait des comparaisons historiques qui n'ont pas lieu d'être, et tombe dans un discours de plus en plus hostile à Israël, avec non seulement des paroles, mais aussi des gestes, comme les gestes absolument ridicules que nous avons vus au Salon du Bourget, où d'ailleurs tous les experts militaires français et tous les officiers supérieurs français que j'ai pu rencontrer depuis se moquent, évidemment, sous le sceau de la confidentialité, se moquent de la décision de la France de cacher, de vouloir cacher les stands des industriels israéliens, producteurs d'armes de défense, évidemment d'armes offensives aussi, la plupart des armes de défense sont aussi des armes offensives, et donc il y a une certaine hypocrisie, une hypocrisie qui a été tournée en ridicule, évidemment, à juste titre par les Israéliens et beaucoup d'éditorialistes français. Donc on ne comprend pas cette évolution, et on a l'impression que Emmanuel Macron, un peu comme ce qu'il avait fait entre Poutine et l'Ukraine au tout début, veut se placer forcément dans la position du médiateur, forcément dans la position même, je dirais, du dealmaker. Il a été banquier d'affaires pas très longtemps, pendant 5 ans. Il a peut-être gardé cette posture que dans toute entre deux parties, on peut trouver un terrain d'entente. Mais là, il n'y a pas deux parties. Il y a, on le sait, un régime criminel qui, depuis 46 ans, terrorise son peuple, massacre son peuple et terrorise la région, et même a ciblé très 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 souvent des intérêts français, a tué des civils français au Proche-Orient comme en France. C'est le régime tyrannique des mollahs de Téhéran. Et au lieu de soutenir ce qu'il devrait faire, comme le fait par exemple les États-Unis très ouvertement, mais aussi ce que fait le nouveau chancelier allemand Friedrich Merz, au lieu de soutenir Israël dans ce combat qui est aussi un combat pour la sécurité de l'Europe, parce que l'Iran est une menace aussi dangereuse, pas existentielle comme pour Israël, mais une menace dangereuse pour l'Europe, au lieu de soutenir, il y a des atermoiements, des appels à le cesser le feu. Et je dirais que moi, la phrase la plus ridicule que j'ai entendue, je ne sais plus si c'était hier ou avant-hier, le président de la République disait on ne provoque pas des changements de régime sous des tapis de bombes. Eh bien, je voulais vous rappeler que c'est entre cette année du 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale et de la libération de la France. Eh bien, c'est exactement ce que les Anglais, les Américains, aussi aidés par les forces françaises et françaises, ont fait pour libérer l'Allemagne et l'Europe d'une dictature criminelle. Ben, ça s'est fait sous un tapis de bombes et dans un conflit armé. Et pour conclure, je citerai le grand écrivain de gauche pacifiste israélien Amos Oz, qui a, on lui posait une question sur le dernier conflit à Gaza en 2014, et on lui demandait s'il condamnait les bombardements israéliens. Il disait, il faut vous rappeler une chose, c'est qu'on n'a pas libéré Auschwitz avec des bouquets de fleurs.
Ouais. On en finirait par apprécier la réponse de Donald Trump hein, concernant Emmanuel Macron en disant qu'il ne comprenait rien. Il était toujours en retard.
Tout à fait. En retard ou en décalage? Tout à fait.
Alors,
c'est triste. C'est triste
pour notre pays. Alors, autre sujet, Yonatan Arfi a été réélu dimanche dernier et dès le premier tour à la tête du Conseil représentatif des institutions juives de France pour une durée de 3 ans. Cette réélection s'inscrit dans un contexte d'augmentation massive des actes antisémites depuis le 7 octobre et à un moment inédit et décisif de l'histoire contemporaine des Français juifs. C'est ce que souligne le CRIF. En 2024, petit rappel, 1570 actes antisémites ont été recensés en France par le ministère de l'Intérieur. Et Yonatan Arfi dit « Ma priorité politique sera de rendre résiduelle l'influence politique de LFI et de Jean-Luc Mélenchon et je poursuivrai le combat contre toutes les formes d'antisémitisme ». Ça a fait grincer des dents à l'extrême gauche, ça.
Oui, c'est pas sûr. Tant mieux. Mais pour revenir à l'élection de Yonatan Arfi à la présidence du CRIF, il faut aussi saluer l'unanimité, parce que vous savez, vos auditeurs et vos auditrices le savent, l'unanimité au sein des juifs, c'est toujours un peu compliqué. Dès qu'on est plus de deux, ça devient compliqué. Mais là, les plus de 200 délégués représentant toutes les associations juives de France, je dis bien toutes les associations de juifs de France, ont réélu à l'unanimité. Alors effectivement, il n'y avait qu'un candidat, mais quand il n'y a qu'un candidat, vous pouvez voter blanc, vous pouvez vous abstenir. Là, ça a été une réélection à l'unanimité, parce que Yonatan a réussi depuis 3 ans, dans un contexte particulièrement difficile, ce jeune homme, parce qu'on n'avait plus l'habitude depuis très longtemps d'avoir des présidents du CRIF de moins de 50 ans, ce jeune homme de 42 ans à l'époque et qui a 45 ans maintenant, a su créer un consensus autour de son action, autour de ses prises de parole, toujours mesurées, pondérées, même celles que vous avez citées récemment sur l'extrême gauche et les filles. Il a su trouver les mots pour communiquer aussi bien en France auprès des pouvoirs publics que de la communauté juive française et a su trouver le ton efficace, c'est-à-dire qu'on est ferme sur un certain nombre de valeurs. Nous sommes des Français juifs fiers de l'être et fiers d'être des citoyens de la République mobilisés contre toutes les menaces contre la République et contre les juifs. Deuxièmement, nous sommes solidaires d'Israël et encore plus depuis le 7 octobre 2023 où Israël doit faire la guerre sur 7 fronts. Israël a dû supporter le plus grave crime antisémite depuis la Seconde Guerre mondiale et nous, sans forcément adhérer à toutes les prises de position politiques et sans entrer dans les débats de politique intérieure israélienne qui ne nous concernent pas, car nous sommes citoyens français, et nous avons par contre souhaité affirmer notre attachement à Israël et nous avons défendu le plus possible Israël. Et donc, la réélection de manière aussi frappante de Yonatan Arfi est à la fois une reconnaissance de sa stature, de l'importance de ses messages et de sa représentativité. Et donc, sa représentativité, quand il dit que LFI est la principale menace pour les Français juifs, Yonatan Arfi a raison, parce que c'est la principale menace pour les Français juifs. Ils ont un discours de radicalisation, ils ont un discours de négationnisme, ils ont un discours de relativisme de l'antisémitisme, ils sont dans un discours accusatoire contre l'État d'Israël de manière totalement véhémente. ils ostracisent les Français juifs qui affirment leur attachement à l'État d'Israël et au peuple israélien. Et donc, ils représentent effectivement, comme 92% des Français juifs le considèrent dans un sondage il y a quelques mois, c'est la principale menace pour les Français juifs.
On va parler à présent d'une autre menace pour les Français juifs. Dans un article du Canard Enchaîné la semaine dernière, qui avait pour titre « En pétard contre Macron, Poutine s'est remis à la peinture ». Les services russes ont mené une nouvelle opération de déstabilisation en France, la cinquième en 18 mois. Le Kremlin a chargé pour cette besogne un commando de 5 Serbes, avec pour mission de laisser croire que le coup venait de défenseurs de la Palestine. On en a parlé avec vous sur cette antenne. Dans la nuit du 30 au 31 mai, 5 lieux symboliques de la communauté juive à Paris, le mémorial de la Shoah, 3 synagogues, 1 restaurant, ont été badigeonnés de la peinture verte, couleur de la Palestine. Comment on comprend cette attitude russe concernant la France et plus précisément la communauté juive française ?
Ben les Russes sont restés les Russes, c'est-à-dire qu'ils sont restés comme à l'époque tsariste, où la police a inventé un faux qui a eu du succès et qui a continué à avoir du succès, et là, ça s'appelle le protocole des sages de Sion. C'est resté la Russie des régimes soviétiques et du KGB, quand ils manipulaient, déformaient, infiltraient, payaient des hommes politiques et des journalistes français. Eh bien, c'est toujours les mêmes méthodes, c'est qu'il faut polariser la société française, faut fracturer la démocratie française, et ce qu'il y a de bien pour fracturer la démocratie française, c'est de la provocation, c'est au prix de faire... Alors, avant, ils utilisaient des agents un peu plus subtils, là, ils ont utilisé, vous l'avez rappelé, pour la peinture bleue des Croates, pour les mains rouges sur le mémorial de la Shoah, les Moldaves, cette fois-ci, pour la peinture verte, comme vous l'avez dit, ce sont des Serbes, qui payent 1000 euros, ce sont des abrutis, ils sont pas bien équipés, ils laissent leurs équipements sur place, ils viennent avec leur téléphone portable donc ils sont localisés, et ils sont très rapidement attrapés par nos services de police qui ont fait un travail remarquable et que je veux saluer. Mais en fait, c'est tout ça pour fracturer, pour polariser, pour diviser, évidemment, quand on cible le mémorial de la Shoah, quand on dégrade des synagogues, ben on porte atteinte à des symboles, évidemment, de la communauté juive, mais plus loin que ça, on porte à des symboles de la République française. À chaque fois au mémorial de la Shoah, les mains rouges comme la peinture verte, on a ciblé le mur des justes parmi les nations, ce mur où le peuple juif, où l'État d'Israël rend hommage à tous ces Français non-juifs qui ont sauvé les Juifs en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y en a 4200, leur nom a été dégradé. Ça a été dégradé par les services russes. Et il y a une chose que je ne comprends pas. C'est qu'il y a une chose que font généralement les diplomates et les ministères des Affaires étrangères. C'est quand il y a un incident de ce type, quand il est prouvé que c'est un régime étranger qui cherche à déstabiliser son pays, en plus en faisant des dégradations antisémites, ben c'est un minimum que de convoquer l'ambassadeur de Russie au Quai d'Orsay pour explication. Et cela n'a pas été fait il y a 2 ans, cela n'a pas été fait il y a 1 an, cela n'a pas été fait récemment. Et c'est bien dommage parce que je serais bien content de savoir ce que l'ambassadeur de Russie en France peut expliquer pourquoi systématiquement les services russes se veulent entraîner une propagande antisémite, provoquée, radicalisée, mais c'est évidemment ce qu'ils font aussi, on en est tous victimes, sur les réseaux sociaux, avec leur robot russe, très connu, qui polarise, qui insulte, qui fracture, parce que c'était leur moyen, c'est la guerre électronique, mais aussi c'est une guerre psychologique contre les démocraties, et il faut mettre le holà à ces techniques et leur faire payer un prix plus élevé.
François Helbron, merci d'avoir été avec nous sur Radio Shalom. Je rappelle que vous êtes professeur affilié à Sciences Po Paris. Bonsoir.
Bonsoir Pierre, je vous remercie.